Les soldats forcèrent alors les portes et découvrirent Cléopâtre sans vie, couchée sur un lit d'or et vêtue de ses atours royaux. De ses deux servantes, l'une nommée Iras agonisait à ses pieds, l'autre, qui s'appelait Carimone, déjà accablée par l'approche de la mort et pouvant à peine se soutenir, lui arrangeait encore le diadème sur le front. L'un des gens de César l'ayant interpellée en ces termes, « Voilà qui est beau, Carimone. » Elle répondit, « Oui, c'est très beau en effet, et digne d'une reine issue de tant de rois. » Après quoi, elle tomba morte au pied du lit. Plutarque vit d'Antoine.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Depuis sa victoire lors des guerres puniques, Rome s'est progressivement installée comme puissance maîtresse de la Méditerranée. À partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, la République impériale va progressivement contrôler l'Orient de la Méditerranée. Les milieux romains ont rapidement compris les intérêts économiques et financiers de la conquête. Déjà, en 133 avant Jésus-Christ, lorsqu'est constituée la province d'Asie, léguée par le roi Attale, de grandes richesses apparaissent possibles pour le Sénat de Rome. À partir du 1er siècle et de la grande expédition militaire de Pompée en 63 avant Jésus-Christ, Rome va directement administrer l'Empire d'Orient, en particulier par le biais de rois clients qu'elle va installer sur des trônes, le plus connu de ces rois clients étant sans doute Hérode le Grand. Il faut imaginer effectivement que Rome, pendant très longtemps, n'a pas voulu mettre directement la main sur l'administration des territoires orientaux. Les rois clients, tels Hérode, mais également finalement Cléopâtre, qui aux yeux de César a pu apparaître comme une reine cliente, ont l'avantage de connaître la région et de pouvoir administrer des populations que Rome connaît, elle, plutôt mal. Ce n'est finalement qu'à partir du 1er siècle et surtout du 2e siècle après Jésus-Christ que Rome va pratiquer une administration directe de l'Orient de la Méditerranée. Rome a la conscience de la diversité des peuples orientaux. Face à cette diversité, que fait Rome? D'abord, elle ne va pas essayer de romaniser la région. Les autorités romaines savent très bien que l'Orient méditerranéen est un milieu de culture grecque, aux religions extrêmement diverses, à un réseau de cités grecques déjà implantées depuis fort longtemps et que Alexandre le Grand et ses successeurs ont développé. Il ne s'agit donc pas de romaniser l'Orient, mais il s'agit d'en faire une partie intégrante de l'Empire. Rome a effectivement conscience que, tout en étant une partie intégrante de son empire, cette zone est bilingue. Elle est à la fois grecque, latine officiellement pour l'administration, mais également une partie des populations parle l'araméen. À l'époque de Jésus-Nazareth, l'araméen est la langue vernaculaire de la province de Judée. Donc, il y a bien une diversité culturelle dans cet Orient romain. D'autre part, les cités grecques, ou d'origine grecque, qui se trouvent dans l'Orient romain, comme par exemple la Décapole, qui se trouve à l'est du Jourdain. Ces cités grecques ont le sentiment d'une supériorité culturelle. Certains historiens ont pu parler même d'une arrogance grecque dans l'Orient romain. Par contre, les Romains regardent les autres conquêtes avec des fois un peu de mépris vis-à-vis des populations. Ainsi pour l'Égypte. L'Égypte tombe sous la mainmise romaine à la suite de la victoire d'Actium en 31 avant Jésus-Christ et puis du double suicide d'Antoine et de Cléopâtre en 30. Si les Romains respectent la vieille religion égyptienne, sont conscients qu'il y a une très vieille dynastie auquel ils succèdent, si également ils sont impressionnés par les monuments laissés par les Égyptiens, ils ont souvent un mépris non caché vis-à-vis de cette population pour qui Cléopâtre avait eu un grand projet politique, celui de créer un empire égypto-grec sur l'Orient de la Méditerranée. Au regard du réseau de cités grecques qui existe dans l'Orient de l'Empire romain, Rome a assez peu créé de colonies romaines. On peut citer, par exemple, Césarée Maritime, qui est la capitale administrative de la Judée, créée par Hérode le Grand, en l'honneur de l'empereur de Rome. On peut citer également Antinopolis, en Égypte, où Hadrien a voulu préserver le souvenir de son amant, Antinous. Mais pour l'essentiel, peu de création de colonies romaines. De même, les Romains ont respecté la tradition des concours sportifs à la grecque et Auguste a lui-même favorisé les concours grecs de Nicopolis. Néanmoins, il y a des changements dus à l'autorité de Rome dans l'Orient méditerranéen. Rome va favoriser des conseils permanents au sein des cités, plus des conseils d'anciens qui permettaient finalement d'appuyer l'administration sur des réseaux de notables qui, souvent, recevaient la citoyenneté romaine. D'autre part, Rome a favorisé aussi, dans cet Orient méditerranéen, des regroupements de cités pour faciliter l'administration. C'est finalement, par exemple, le cas de la Décapole à l'est du Jourdain. D'autre part, les notables, dont il vient de question, s'ils participent à l'administration des cités, il s'agit aussi de les surveiller. Une des manières de contrôler en particulier la richesse de ces notables est de les charger de ce qu'on appelle les liturgies, c'est-à-dire des charges financières par lesquelles ils amélioraient le quotidien de leurs concitoyens dans les cités. Ces charges étaient prestigieuses, mais fort coûteuses. D'autre part, Rome, comme partout ailleurs, a favorisé la création de citoyens romains. Le plus connu pour nous de ces citoyens romains est sans doute Paul de Tarse, l'apôtre. Il est fort probable que son père a sans doute reçu la citoyenneté à l'époque de l'empereur Auguste. Autre élément fédérateur dans cet Orient romain, c'est le culte des empereurs. C'est en Orient qu'a débuté le culte impérial, en l'honneur d'Auguste puis de Tibère. Progressivement, les empereurs, qui ont dans un premier temps limité ce culte impérial en Occident, en ont favorisé le développement chez des peuples qui, depuis des siècles, avaient une tradition très forte de vénération du souverain. Pour un Égyptien, entre le pharaon traditionnel et le nouveau pharaon, qui était l'empereur de Rome, la différence était finalement minime. D'autre part, Rome a aussi favorisé le changement dans l'urbanisme en Orient. L'Orient connaissait, nous l'avons déjà signalé, un réseau important de cités. Mais Rome a favorisé la création d'aqueducs, de thermes, de ces piscines extrêmement prisées par l'élite romaine et que les Grecs vont eux-mêmes adopter. De même, les villes de l'époque impériale vont connaître la création de latrines publiques, d'arcs de triomphe. Il y a donc des innovations de Rome. De même, dans la pratique des loisirs, Rome va favoriser les jeux du cirque, chose que ignoraient complètement les civilisations hellénistiques de l'époque lagide ou séleucide. Finalement, nous voyons que cet Orient romain a été habilement dirigé par Rome. Rome a su profiter du réseau de cités, profiter des habitudes religieuses et civiques des populations de l'Orient. Et elle n'a pas cherché à aucun moment d'imposer une romanité de force. Elle a plutôt cherché à intégrer progressivement les élites, tout comme elle le fera d'ailleurs également en Occident. Ce qui explique la longue durée de l'Empire romain. Que ce soit en Occident ou en Orient, c'est bien sa capacité de réussir à intégrer les élites et finalement à donner à tous, par l'édit de Caracalla en 212, la citoyenneté romaine, chaque habitant libre ayant récupéré cette citoyenneté. Ainsi, il est sans doute très heureux que le grand historien Paul Vane ait consacré tout un livre à cet empire à qui il a donné pour titre l'Empire gréco-romain. Car effectivement, Rome n'a pas été seulement une cité romaine, mais une cité qui a su mêler la culture grecque et la culture romaine.